Eh bien, bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Françoise Bressa de m'avoir invitée, tout au moins autorisée à parler de mon chouchou parmi les chouchous, Henri VIII. Et avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais en fait, en deux lignes, en deux mots, expliquer pourquoi j'ai choisi de présenter la période Tudor lors de ces trois séances. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une période charnière dans l'histoire, non seulement dans l'histoire de l'Angleterre, mais aussi dans l'histoire du monde. Évidemment, vous me direz que toute période est intéressante dans l'histoire, mais cette période-là l'est d'autant plus parce qu'elle a une influence à court terme et à long terme sur le futur de nombreuses nations. Elle est essentielle non seulement d'un point de vue religieux. Vous savez qu'Henri VIII s'est séparé de Rome, j'en parlerai notamment la semaine prochaine, mais cette période a été également le témoin d'un changement au niveau de la monarchie en Angleterre. Et voilà. Et elle a eu également des influences sur le Nouveau Monde, donc les futurs États-Unis d'Amérique, je pense donc à plus long terme au XVIIe siècle. Vous avez entendu parler du Mayflower et de tous les exilés et dissidents protestants qui ont fui vers l'Amérique. Eh bien, tout ça a démarré à partir d'Henri VIII, à partir de ce qu'on a appelé le schisme henricien. Donc voilà pourquoi j'ai souhaité parler et vous présenter Henri VIII, parce que tout est parti d'une crise personnelle qui a donné lieu à une crise nationale et une crise internationale. Alors on dit souvent, quand on se penche sur la question de l'instauration de la réforme et du protestantisme en Angleterre, on dit souvent que Henri VIII était le premier roi protestant. Et bien moi j'aimerais remettre les choses un petit peu dans l'ordre parce qu'il n'a jamais été protestant. En fait, j'irais même jusqu'à dire que la réforme protestante s'est installée en Angleterre malgré lui. Et il s'est séparé de Rome. Alors ça fait un petit peu mariage, hein, il s'est séparé de Rome, mais c'est un petit peu l'idée, enfin on verra ça la semaine prochaine. Mais il s'est séparé de Rome pour des raisons personnelles. Et c'est ce que j'aborderai un petit peu plus tard dans cette présentation. Et il s'est séparé pour des raisons personnelles parce que tout simplement il souhaitait divorcer de sa première femme, Catherine d'Aragon, trop vieille pour lui offrir un héritier mâle. Donc c'est là vraiment que la crise personnelle prend tout son sens et a changé le futur d'une nation et, comme je l'ai dit, futur d'autres nations. Donc je parlerai, comme j'ai dit tout à l'heure ailleurs, de la question du divorce et des tensions religieuses plus en détail, notamment la semaine prochaine, mais je tenais déjà à clarifier cela. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de parler d'Henri VIII aujourd'hui. Et deuxième point, pourquoi la vie et l'œuvre d'Henri VIII s'accordent tout à fait avec la thématique de la crise? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai intitulé ce cours « Je t'aime moi non plus », parce que tout est parti d'une crise familiale, d'une crise personnelle, et tout simplement aussi parce qu'un homme qui a eu 6 femmes a été obligé à un moment de traverser des crises personnelles et de traverser des crises familiales. Donc voilà, les deux raisons. Parce que tout est parti d'une crise personnelle et aussi d'une crise familiale qui a donné aussi lieu à des débats par rapport à la dynastie Tudor. Donc, avant de parler de la vie conjugale d'Henri VIII, hein, ce qui vous amène tous ici, je voudrais d'abord parler de ses parents et rapidement après vous présenter Henri VIII. Donc, voici Henri VII, portrait donc d'Henri VII, et à suivre le portrait de sa femme. Henri VII, qui est né le 28 janvier 1457. Comme vous le voyez, il porte sur son chapeau la rose Tudor, hein, symbole, emblème de la dynastie Tudor. Et, alors, est-ce que ça va marcher? Voilà. Et Elisabeth d'York, la mère d'Henri VIII, qui porte, elle, dans les mains la rose typique de sa famille. Donc, de cette union naissent plusieurs enfants, et Henri VIII, notamment, naît le 28 juin 1491. Il est le troisième enfant d'Henri VII et d'Elisabeth York, et deuxième sur la liste de succession au trône d'Angleterre, derrière son frère aîné, Arthur. Et Son père avait battu le dernier roi plantagenet, Édouard III, lors d'une bataille qui s'appelait la bataille de Bosworth, le 22 août 1485. Et c'est à la suite de cette bataille que la dynastie Tudor monte sur le trône avec Henri VII. Donc la mort de Richard III lors de cette bataille met fin à la guerre des deux roses qui a vu s'affronter deux familles, la famille Lancastre et la famille York, et donc qui permet à la dynastie Tudor de monter sur le trône et de couronner son premier monarque, Henri VII, que vous avez vu ici. Henri VII était un roi qui était fort apprécié, mais il était quand même réputé pour son avarice. Il était quand même assez radin, mais malgré tout, il a su redresser l'économie du pays, donc on ne peut pas lui en vouloir d'avoir été radin, un pays qui avait été longtemps plongé pendant la guerre. Donc, c'est un monarque économe, prudent, qui redresse les finances et qui redresse aussi la politique, puisque évidemment un pays qui restait en guerre longtemps est un pays plus ou moins instable. Et il s'est quand même affairé à maintenir la paix et à créer la prospérité dans son pays. Donc c'est un roi qui était relativement apprécié et qui a su quand même vivre et profiter de la période qui arrivait, de la période de renouveau qui arrivait en Angleterre, cette période de renaissance, pour être assez visionnaire. Donc on peut le décrire comme un homme de son temps. On peut vraiment décrire Henri VII comme un homme de son temps, un homme du début de la Renaissance qui comprend vite les choses et qui comprend vite aussi qu'il vit à une période charnière de l'histoire. Il sait que pour bien régner, il faut savoir bien s'entourer. Et il faut être bon guerrier, certes, ce qui avait été le cas lors de cette bataille, mais il sait aussi qu'il faut bien s'entourer, et pour bien savoir s'entourer, il faut quand même être malin et savoir aussi, avoir une bonne éducation. Donc c'est pourquoi il attache vraiment de l'importance à l'éducation de ses enfants. Enfin, quand j'entends enfants, à l'époque, on entendait fils, parce que les filles étaient quand même reléguées à d'autres catégories. Quoique, bien plus tard, on le verra avec les autres femmes, les choses évoluent. Donc, Henri VII décide que ses enfants, ses garçons, Arthur et Henri Tudor, qui deviendra Henri VIII, auront une éducation plutôt riche et qui seront élevés comme des princes de la Renaissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un prince de la Renaissance? Ça veut dire être un prince influencé par les idées humanistes. Pas d'un point de vue religieux, c'est-à-dire pas forcément d'un point de vue de la réforme, mais c'est-à-dire on va les intéresser, les éduquer, par exemple, à la culture classique, à la musique, ils feront du sport, ils liront le latin, le grec, peut-être le français, des choses comme ça. Donc c'est quand même un roi, Henri VII, qui est assez novateur de ce point de vue-là. Donc je l'ai dit, Henri VII a deux garçons, Arthur et Henri, et le fils aîné d'Édouard VII meurt en 1502, donc Arthur meurt en 1502, et Henri, qui s'entendait plutôt bien avec la papauté, réussit à obtenir une dispense du pape, une dispense de mariage, pour que la veuve d'Arthur, qui s'appelle Catherine d'Aragon, puisse épouser Henri Tudor. C'est-à-dire qu'à la mort du fils aîné d'Édouard VII, donc Arthur, Catherine pourra épouser le frère de son défunt mari. Donc la dispense royale est accordée sans aucun problème, ce qui arrange un petit peu les deux familles, puisque la famille d'Espagne, Catherine d'Aragon est originaire d'Espagne, et la famille d'Angleterre, ils voient toutes les deux des avantages et des intérêts, ils ont toutes les deux des intérêts communs. Donc cette dispense est accordée en 1502 sans aucun problème. Et chose intéressante, Henri VII, oui que vous voyez toujours, Henri VII avait stipulé que le mariage entre Henri Tudor, donc futur Henri VIII, et Catherine d'Aragon n'aurait lieu qu'à sa mort. Donc, évidemment, il ne savait pas quand il allait mourir, mais ce brave homme est mort en 1509. Donc en 1509, voilà, là vous avez donc Catherine, Élisabeth, Henri VIII arrive sur le trône. Alors, je vous montre plusieurs portraits. À gauche, Henri VIII, jeune. Bon, vous voyez que c'est quand même un bon gaillard. Donc plutôt roux vénitien, clair de peau, avec une carrure quand même exceptionnelle. Vous remarquez sur le portrait de droite que on met évidemment en valeur sa carrure, hein, pour mettre en avant sa force et sa virilité. Vous remarquerez aussi que les épaulettes ne sont pas une invention des années 80, que vraiment on aimait bien les... Ça c'est très Tudor comme style, hein, des manches très bouffantes. Et vous remarquerez aussi, ça c'est plus sur le portrait suivant, voilà, qu'on met aussi également en avant sa virilité. Et c'est pas innocent. Parce que, comme vous le savez peut-être, Henri a un but pratiquement unique dans la vie, c'est d'obtenir un héritier mâle. Et évidemment, pour être capable de procréer un héritier, de fournir à la couronne un héritier mâle, il faut montrer qu'on est viril et qu'on est capable de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent sur les portraits d'Henri. Donc, on met en avant dans ses portraits sa force et sa virilité. C'est ce que vous voyez d'ailleurs aussi... sur ses armures qui ont été conservées. Alors à gauche, son armure de combat à 20 ans, et à droite, son armure à 48 ans. Vous remarquez aussi que sa taille s'est peu à peu épaissie, puisqu'à la fin de sa vie, il pesait quand même 140 kilos, ce brave homme. Et que là aussi, hein, alors, bon, j'imagine que, bon, je ne suis pas une grande technicienne de l'armure, mais on protège de nombreuses parties du corps, donc les parties essentielles, mais quand même, ces parties intimes sont quand même très, très mises, enfin, vraiment mises en valeur. Voilà, donc tout ça aussi, on est dans le symbole à l'époque et c'est important de le constater. Donc on va quand même revenir, hop, ça ce sera pour après, au portrait d'Henri VIII peint par Holbein. Holbein, le jeune qui était peintre à la cour d'Angleterre et qui a peint de nombreux portraits. Sur ce portrait également, vous remarquerez les mollets d'Henri VIII. Hein, qui sont galbés, il était très fier de ses mollets, qui étaient d'ailleurs réputés d'une très grande beauté pour l'époque, et d'après un témoignage, on sait qu'il les a comparés à ceux de François Ier et qu'il était bien plus fier de ses mollets parce que François aurait eu des mollets nettement moins sexy que lui. Voilà, pour la petite histoire. Donc, je vais vous présenter Henri VIII. Donc, je vous l'ai dit, il a reçu une éducation riche. Il s'intéresse aux cultures classiques. Il écrit et lit en latin et en grec. Il connaît le français. Il s'intéresse également à la théologie, ce qui est important quand on sait ce qui va se passer après et dans quelle mesure il va s'impliquer dans la lutte contre Rome. Il s'intéresse aux arts. Il aime la musique, il joue de la musique. On lui attribue la composition de Greensleeves. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est pour ça que je... Est-ce que ça va marcher? Ah, zut. J'en ai un petit extrait. Vous allez tout de suite reconnaître Greensleeves. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Bon, évidemment, à l'époque, on avait une version jouée aux luttes, mais j'en ai pas trouvé, donc vous aurez la version nettement plus digitale. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à beaucoup de choses. Évidemment, il pratique le sport. Enfin, je vous dis évidemment. Donc, quand vous voyez les armures, on sait qu'il pratique les joutes. C'est un grand sportif. Il avait une stature quand même impressionnante, à peu près 1m90. Qui est très grand pour l'époque. On a célébré le 500e anniversaire de son couronnement en 2009 et ont été montrés à la Tour de Londres et dans d'autres musées de nombreuses armures et notamment une autre armure d'Henri. Voilà, Henri est sur son cheval. Donc c'était vraiment il fallait vraiment être très très solide pour pouvoir porter ce genre d'armure. Et ça nous permet à nous de voir sa véritable stature, ce qui est intéressant. Donc, je disais qu'il était extrêmement sportif, il pratique les joutes, il manie extrêmement bien l'archet, il pratique le tennis. Alors là, je suis en train de vous montrer le premier court de tennis, en fait, qui a été construit pour lui et qui subsiste encore au palais de Hampton Court, qui se trouve en banlieue sud de Londres et que je vous conseille vivement de visiter, parce que c'est vraiment un palais vraiment beau, qui a été remanié de nombreuses fois, mais qui vous montre vraiment l'architecture Tudor. Et vous pourrez y voir le court de tennis qui est encore utilisé de nos jours. Alors, je ne connais pas exactement les règles, mais je sais que c'est un mélange de tennis et de squash. Voilà. Donc, vous ne pourrez y jouer que si vous faites partie d'une famille d'aristocrates anglais. Mais si vous n'êtes pas un riche aristocrate anglais, vous pourrez vous déplacer autour. Est-ce que vous allez voir ? Voilà. Ici, il y a des galeries dans lesquelles vous pouvez vous déplacer. Des galeries qui sont protégées par des filets, donc ce sera sans aucun danger. Et vous pourrez vous déplacer et assister au match. Donc si vous avez vraiment l'occasion d'y aller, je vous conseille vivement la visite. Donc, tout comme tous les monarques et les aristocrates, ils pratiquent la chasse à cour, ainsi que les joutes, je l'ai déjà dit, et les joutes sont quelque chose d'important dans sa vie, d'autant qu'il a eu, il a été victime d'un accident assez jeune, il a eu une blessure assez grave à la jambe, et cette blessure ne guérira jamais totalement, et se transformera peu à peu en un ulcère qui au fil du temps s'abîmera énormément et contribuera à sa mort. Puisque vous savez qu'à l'époque on a une forte croyance dans les humeurs, donc les médecins royaux estiment qu'on ne doit pas laisser cette blessure se cicatriser et ils y placent très régulièrement des petites boules d'or pour empêcher la cicatrisation et évidemment faire que la maladie sorte de ce corps. Donc vous imaginez les souffrances terribles dans lesquelles il a dû être, mais voilà, c'est comme cette blessure, si vous voulez, entre autres choses, hein, contribuer à sa mort et à sa mort. Voilà. Bref, donc, comme je l'ai dit, Henri VIII est un homme qui s'ouvre sur le monde. Le monde, évidemment, étant l'Europe, mais l'Amérique dans une certaine mesure. Et il s'ouvre sur un monde qui est en changement, en plein changement, puisque c'est le monde de la Renaissance. La Renaissance arrive en Angleterre, et c'est vraiment une période de renouveau. On passe d'une longue période d'obscurantisme, c'est-à-dire la période du Moyen-Âge, bien que, bon, le terme d'obscurantisme soit un petit peu discuté de nos jours, et à une période où tout s'ouvre, et une période où on a vraiment envie de comprendre le monde dans son ensemble, et on assiste à l'émergence de l'humanisme. Alors, je reviendrai en deux mots sur l'humanisme, qui est un mouvement qui s'est développé en Italie, et en réaction au dogmatisme très rigide du Moyen-Âge, et toutes ces idées-là montent, traversent l'Europe et arrivent en Angleterre. Et pour les humanismes, l'homme est au centre des préoccupations et il souhaite renouer avec les valeurs, la philosophie, la littérature, l'art, l'antiquité classique, bref, tout ce qui intéresse Henri VII et surtout tout ce qui intéresse Henri VIII. Il a vraiment soif de connaissances. Alors ça, c'est plutôt d'un point de vue contexte historique. Maintenant, je voudrais aborder en deux mots le contexte confessionnel, le contexte religieux, parce que c'est quelque chose d'assez important aussi, et qui est tout aussi intéressant, puisque c'est une période où foisonnent les controverses. On est à une période où les idées protestantes commencent à émerger, à apparaître en Angleterre. Pour faire simple, j'utiliserai le terme de protestant, mais sachez quand même que le terme n'est absolument pas utilisé à l'époque. On utilise différents termes, on peut même pour catégoriser un protestant utiliser le terme de catholique chrétien. Mais bon, pour faire simple, j'utiliserai le terme de protestant. Ces idées nouvelles arrivent principalement d'Allemagne, où Martin Luther avait affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg le 31 octobre 1517. Il critique ouvertement les pratiques de l'église de Rome, et notamment ce qu'on appelait le commerce des indulgences, c'est-à-dire l'achat de la rémission totale ou partielle des péchés et le temps passé au purgatoire. En gros, si vous aviez de l'argent, vous pouviez donner de l'argent à l'église pour racheter vos péchés et être sûr d'aller le plus rapidement possible au paradis. Donc c'était quand même une façon très commode pour l'église de gagner de l'argent, et ça, Luther le critique ouvertement, ça et d'autres aspects de la vie du clergé. Qu'il dénonce en fait et qu'il accuse de vivre dans le stupre, dans la richesse, alors qu'ils ont fait vœu de pauvreté. Donc toutes ces idées-là arrivent peu à peu en Angleterre et les idées de la réforme s'installent notamment grâce aux techniques nouvelles, par exemple l'arrivée de l'imprimerie. C'est une époque à laquelle on voyage de plus en plus. Donc, les publications arrivent petit à petit en Angleterre. Tout cela permet la circulation des idées. J'aborderai la question de la réforme protestante en détail la semaine prochaine, mais je pense qu'il était important de clarifier un petit peu le contexte confessionnel et le contexte historique pour bien comprendre comment Henri VIII en est arrivé là où il en est arrivé et comment il a vécu avec toutes ces femmes, j'allais dire. Donc, en parlant de femmes, on va se tourner vers les femmes, vers toutes ces femmes. Donc, comme la vie d'Henri VIII est digne d'une sitcom hollywoodienne, par souci de clarté, j'ai décidé de vous les présenter dans l'ordre chronologique plutôt que thématique. Voilà, pour garder un petit peu le mystère. Alors, voici sa première femme, Catherine d'Aragon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bernard Cotteret, qui a publié une biographie sur Henri VIII il y a quelque temps, dit de lui, je cite, « Henri couche peu et se marie beaucoup ». Alors ça, si vous avez eu l'occasion de regarder différents films ou différentes séries télé, je pense notamment à la série Les Tudors que vous connaissez peut-être, c'est pas du tout l'image qu'on a de lui. Déjà, bon, ça c'est très personnel, hein, mais quand on regarde Henri VIII et qu'on le compare à l'acteur qui joue Henri VIII dans la série, bon, il y a une petite différence de stature, j'allais dire, hein. Bon, mais ça, c'est très personnel. Mais surtout, dans la série, on le décrit comme un homme ayant des milliers de maîtresses. Catherine d'Aragon sera mieux. Voilà, alors ça, c'est une image qui est un petit peu véhiculée au fil du temps, qui a été un petit peu, altérée. Donc, je pense aussi au film « Deux sœurs pour un roi » que vous avez peut-être vu, voilà, où il a eu, en gros, si vous ne connaissez pas le film, le film décrit la relation qu'il a avec, tout d'abord avec la sœur d'Anne Boleyn, Marie Boleyn, pour ensuite rencontrer Anne Boleyn. Donc tout ça, c'est vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le cinéma, en fait, a édulcoré et un petit peu remanié l'histoire. Donc, il est quand même bel homme pour l'époque, hein, il est vraiment considéré comme un bel homme, il est toujours accompagné dans les films et dans toutes les biographies un peu romancées qu'on a pu avoir par une, voire deux courtisanes, tout aussi belles les unes que les autres, et donc on le présente toujours comme un homme à femme, comme un grand séducteur, comme je l'ai dit, ce qui ne correspond pas forcément à la réalité. On lui connaît, ceci dit, quelques maîtresses et quelques, évidemment, plus ou moins quelques enfants illégitimes, sinon ce serait pas drôle. Mais rien d'extraordinaire, j'allais dire, par rapport à d'autres monarques comme Henri IV ou Louis XV qui en ont eu beaucoup. En tout, Henri VIII aurait eu plus ou moins 6 enfants hors mariage. Mais les historiens sur cette question-là ne sont pas tous d'accord. Quoi qu'il en soit, la préoccupation de sa vie, c'est la seule et unique, c'est produire un héritier mâle qui lui succédera sur le trône. Ça, c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, et d'ailleurs, à chaque fois, il espère toujours que sa prochaine femme lui offrira un enfant mâle. Donc voici Catherine d'Aragon. Alors sur ce portrait. Elle est assez jolie, elle a un joli minois, c'est un portrait plutôt flatteur, elle est peinte plutôt dans une posture méditative, et je ne sais pas si vous le voyez, mais derrière, ici, là, et ici, elle est peinte comme si elle était auréolée. Hein, on voit très... Hein, faites-moi confiance. Hein, comme si elle était auréolée. Donc, évidemment, elle était infante d'Espagne, catholique, fervente catholique. Donc, elle est peinte presque en méditation, j'allais dire ici. Un deuxième portrait où là, les choses se gâtent un petit peu, puisque, alors évidemment, c'est un avis très personnel, puisqu'elle est nettement moins jolie, le portrait est nettement moins flatteur. Vous remarquerez son menton. Hein, elle est assez prognate, c'est-à-dire qu'elle a le menton qui avance quand même un petit peu, ce qui est quand même un signe, une caractéristique de la famille des Habsbourg dont elle faisait partie. Voilà. Donc c'est un gène fort dans cette famille-là. Voilà, donc Catherine. Lorsqu'Arthur, le frère d'Henri VIII, enfin de celui qui allait devenir Henri VIII, meurt en 1502, Henri Tudor, futur Henri VIII, sait qu'il va monter sur le trône à la mort de son père. Donc, comme je vous l'ai dit, Henri VII avait souhaité une alliance avec l'Espagne, et pour maintenir les liens entre les deux pays, il décide que son fils, Henri VIII, épousera la veuve de son frère, Catherine d'Aragon. Et à la mort d'Arthur, selon le désir d'Henri, qui ne souhaite, puisqu'il était très radin, qui ne souhaite surtout pas rembourser la dot de Catherine en cas de départ pour l'Espagne, Catherine reste en Angleterre. Ce qui est très difficile pour elle, puisqu'elle a vraiment le mal du pays, elle en souffre vraiment, et elle est très souvent victime de moqueries, notamment à cause de son fort accent espagnol. Mais quoi qu'il en soit, tout au long de son règne et jusqu'à sa mort, elle restera très aimée par le peuple anglais, contrairement à la seconde femme d'Henri, Anne Boleyn. Donc elle a une image, elle véhicule une image très très positive, elle est vraiment très très appréciée par le peuple anglais. Donc, pour que l'union soit autorisée par Rome, l'union entre Catherine et Henri VIII soit autorisée par Rome, et respecte ainsi les canons de l'Église, il faut prouver quelque chose d'important, c'est-à-dire la non-consommation du premier mariage de Catherine. Ou, faute de mieux, il faut obtenir une dispense du constat de virginité par le pape. Alors, évidemment, on demande à l'intéressé ce qu'il en est. Catherine répond qu'il n'y a pas eu de consommation de son mariage entre elle et Arthur, ce qui est confirmé par sa chaperonne. Et le pape avait accordé sans problème en 1502 la dispense et les deux familles, heureuses de conserver les liens forts entre les deux pays, célèbrent le mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon le 11 juin 1509, 9 semaines après l'accession au trône par Henri VIII, et tous les deux, Catherine et Henri, sont couronnés le 24 juin à l'abbaye de Westminster. C'est un couple très amoureux, a priori très amoureux selon les témoignages qui nous sont parvenus, et Henri est très amoureux de sa femme. Catherine lui donne 6 enfants, dont un seul survit, une fille, Marie, hein, qui naît en 1516, future Marie Tudor, Marie première d'Angleterre, surnommée lors de son règne Bloody Mary, Marie la sanglante, Marie la sanguinaire, reine catholique, hein, qui restera toujours très attachée à la religion de sa mère, hein, la religion catholique, et combattra bec et ongles contre les protestants. Mais donc, suite à de nombreuses fausses couches, de nombreux enfants morts-nés ou qui ont survécu quelques semaines, dès 1514, il semblerait qu'Henri s'impatiente, ne voyant aucun enfant mâle survivre aux diverses naissances, fausses couches et autres enfants morts-nés. Donc, il envisage peu à peu de répudier sa femme. En 1519, il a un fils d'une de ses maîtresses qui s'appelle Elizabeth Blount et qui lui donne Henri donne à son fils le nom très révélateur de Henry Fitzroy. Fitzroy, le fils du roi. Et en plus, quelque chose de très symbolique, il lui donne le titre de duc, qui est un des plus hauts titres, voire le plus haut, il me semble-t-il, duc de Richmond, alors qu'il s'agit d'un enfant illégitime, un enfant né hors mariage. Donc ça vous montre bien l'importance qu'accordait Henri au fait d'avoir un garçon dans un pays où la loi salique n'existait pas. Alors, les choses se gâtent, évidemment, rien ne se passe très rapidement, mais les choses se gâtent vraiment pour Catherine vers 1525-1526, lorsqu'Henri tombe amoureux, éperdument amoureux, d'une des dames de compagnie de la reine, une certaine Anne Boleyn. Et c'est là que commence vraiment la sitcom, parce que, évidemment, tout n'est pas si simple. Alors, voilà, voici la jolie Anne Boleyn, avec le B. Que vous retrouvez sur tous les portraits, à ma connaissance, tous ces portraits. Alors, si on avait imposé à Henri sa première femme, il n'en est pas de même pour les suivantes. Hein. Il en a eu 6, Anne est la deuxième. Donc en 1527, Henri décide d'épouser Anne et il entame une procédure d'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Alors, j'en parlerai bien plus en détail la semaine prochaine en rentrant dans les détails un peu plus techniques, mais Henri décide de répudier Catherine à partir de 1532 contre l'avis de l'ambassadeur de l'empereur Charles Quint, donc d'Espagne, et contre évidemment l'avis du pape Clément VII qui s'oppose et refuse catégoriquement d'annuler ce mariage. Ce serait trop simple. Et c'est vraiment là qu'on met les pieds, à mon avis, dans la crise, parce que c'est bien cet événement-là qui est directement à l'origine du schisme mauricien, de la séparation entre Henri VIII et l'Église catholique romaine, et à terme la création de la future Église d'Angleterre et même de l'Église anglicane qui viendra un petit peu après. Donc quand on vous dit qu'Henri était un roi protestant, non, il n'était pas protestant. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu se séparer de Rome pour des raisons personnelles, hein, puisque des raisons dynastiques, il voulait absolument un fils. Il s'est débrouillé pour obtenir ce divorce, cette annulation de mariage. Et ensuite, les choses se sont un petit peu emballées malgré lui, et tout cela a donné lieu à l'arrivée des idées de la réforme en Angleterre. Mais lui a toujours été, dans son cœur, catholique, hein, fidèle défenseur de la foi, comme il avait été nommé par le pape. Donc, pour pouvoir se marier, si vous voulez, avec Anne, il va falloir obtenir l'annulation du mariage. On dit souvent, on entend souvent parler de divorce royal. C'est pas tout à fait ça, puisque s'il avait divorcé, il aurait été excommunié plus rapidement. Lui, ce qu'il voulait, simplement, c'était une annulation de mariage. On n'en parle plus, on passe à la prochaine. Hein. Mais ça ne s'est pas passé aussi simplement, puisque évidemment le pape Clément VII refuse, et le divorce est malgré tout, grâce à des manipulations de l'Ancien Testament, des manipulations d'ordre juridique, le mariage est prononcé par Thomas Cranmer, qui était le nouvel archevêque de Canterbury. L'archevêque de Canterbury, c'est l'instance la plus haute instance religieuse du pays. Donc, le divorce est prononcé par Cranmer, et donc c'est ce que je vous disais, la semaine prochaine, j'en parlerai un peu plus en détail des diverses manipulations bibliques qui ont permis de prononcer cette annulation. Donc, comme on disait tout à l'heure, avant de rencontrer Anne Boleyn, Henri avait eu une liaison avec sa sœur Marie. Donc, c'est ce qui est montré dans le film de Sœur pour un roi. Mais Anne refuse catégoriquement d'être une maîtresse, qu'une maîtresse parmi tant d'autres, et elle insiste pour qu'Henri l'épouse. Elle lui promet un enfant, un fils, mais si et seulement s'il l'épouse. Donc Henri, étant un homme qui avait quand même un ego assez démesuré, et qui surtout ne supporte pas l'échec, décide donc de demander l'annulation de son premier mariage, comme nous l'avons vu, et c'est cette décision, comme je l'ai dit, qui va précipiter le schisme mauricien. Donc, le roi épouse secrètement Anne Boleyn le 25 janvier 1533, et c'est aussi ce fameux Cranmer, Thomas Cranmer, qui les marie, tant qu'à faire, et quelques mois plus tard, il déclare l'annulation du premier mariage, donc en mai 1533. Et là, Henri est libre d'avoir de nombreux enfants avec Anne, et surtout des enfants légitimes avec elle. Or, les choses, vous vous doutez bien, ne se passent pas aussi facilement, de façon aussi simple, et le pape, on s'en doutait, excommunie Henri, qui, en réaction, se nomme lui-même à la tête de l'Église, l'Église qu'il va créer, l'Église d'Angleterre, et suite, comme je disais tout à l'heure, à de diverses manipulations d'ordre théologique et juridique, il devient chef suprême de l'Église d'Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à Catherine ? La pauvre Catherine, elle est confinée dans un château et elle meurt le 7 janvier 1536, abandonnée de tous, mais jamais de sa fille Marie, qui lui reste sera fidèle au point de conserver la religion de sa mère. Des rumeurs courent quant aux raisons de la mort de Catherine. On a prétendu qu'elle était morte empoisonnée, mais des examens plus récents semblent suggérer qu'elle serait morte d'un cancer. Donc tout semble aller pour le mieux pour Henri VIII. Finalement, il a réussi à épouser une jeune femme pleine de vigueur, capable de lui donner des enfants. Mais horrible affront pour lui, Anne donne naissance à une fille le 7 septembre 1533. Il espère un garçon, elle lui donne une fille. Cette fille deviendra la future Élisabeth Ière d'Angleterre, donc finalement, ça n'est pas si mal sorti. Donc, s'en suivent pour Anne de nombreuses fausses couches, on en connaît au moins trois, et Henri, qui a désormais 43 ans, s'impatiente. S'impatiente vraiment. Pour la petite histoire, Anne fait une fausse couche le jour des funérailles de Catherine d'Aragon, et Henri y voit un signe divin et se dit que son mariage est franchement maudit et qu'il a intérêt de passer à autre chose. Donc, il est temps pour lui de se remarier. Mais comment se débarrasser d'elle? Parce que bon, il avait déjà obtenu une annulation, les choses s'étaient quand même plutôt mal passées, j'ai résumé en deux lignes, mais bon, ça a été assez long, hein, ça a duré de nombreuses années. Il s'est mis à dos quand même plusieurs monarques, dont l'empereur Charles Quint, donc les choses se sont quand même plutôt mal passées. Donc, se débarrasser de sa deuxième femme de façon, légale serait plus intéressant pour lui. Mais rien de plus simple pour lui, puisque un ministre qui était et conseiller du roi qui était quand même très proche de lui, Cromwell, Thomas Cromwell, et qui détestait ouvertement Anne, trouve très facilement des gens auprès de lui qui seraient prêts à témoigner contre elle. Comme je disais tout à l'heure, autant Catherine était très appréciée, autant Anne l'était moins. Déjà, elle était brune, hein, elle ne rentrait pas, si vous voulez, dans les canons de la beauté de l'époque. On l'a accusée de plein de choses. On l'a accusée de sorcellerie. On l'a accusée d'avoir 6 doigts. On l'a accusée d'avoir 3 seins. On l'a vraiment accusée de plein de choses. Et surtout, elle est accusée d'avoir commis l'adultère avec son musicien personnel, ainsi que 3 courtisans. Donc ça lui faisait déjà 4 amants. Mais pire encore, on l'accuse d'inceste avec son propre frère, George Boleyn. Donc tous sont arrêtés. Le musicien avoue sous la torture alors que les autres nient. Il semblerait que ces accusations n'aient eu en fait aucun fondement et qu'on l'ait accusé à tort et qu'Anne soit effectivement restée fidèle au roi. Donc Anne est elle-même également arrêtée, elle est jugée pour haute trahison. Le 15 mai 1536, donc très rapidement, ils sont mariés en 1533, elle est accusée en 1536. Elle est ensuite envoyée en prison à la Tour de Londres, où elle est décapitée le 19 mai. Pour la petite histoire, plus ou moins, bon, c'est pas l'heure du repas, mais pour la petite histoire, Anne était terrifiée à l'idée d'être décapitée à la hache. Et Henri, dans sa grande mansuétude, fait venir de France 2 bourreaux spécialistes de la décapitation à l'épée. Voilà. Alors, je voulais vous lire, le voici, le discours que Anne fait en montant sur l'échafaud. C'est un discours que je trouve assez poignant et je vous le lis. « Bon peuple chrétien, je suis venu ici pour mourir. » Car selon la loi et par la loi, je suis jugé pour mourir. Je ne discuterai donc pas cette loi. Je suis venu ici pour n'accuser aucun homme, ni parler de quoi que ce soit dont je suis accusé et condamné à mourir. Mais je prie Dieu de sauver le roi et le laisser régner longtemps sur vous, car il n'est prince plus doux et plus miséricordieux. Et pour moi, il a toujours été un souverain bon et doux. Elle n'est pas rancunière. Et si certains s'immiscent pour sa cause, je leur demande de juger au mieux. C'est ainsi que je prends congé du monde et de vous tous, et je souhaite vivement que vous priez tous pour moi. Ô Seigneur, ayez pitié de moi, à Dieu je recommande mon âme. Et là elle s'agenouille, et elle répète plusieurs fois, Jésus-Christ, je vous recommande mon âme, Seigneur Jésus, recevez mon âme. Et là, elle est décapitée d'un coup sec. Voilà. Donc je trouve que c'est assez poignant quand de lire les textes comme ça. En anglais, je trouve le texte encore plus poignant. Savoir que cette jeune femme s'apprêtait à mourir décapitée. Donc Henri n'a plus de femme, il est libre comme l'air. Je vous le donne en 1000. Il aura une troisième femme. En la personne de Jane Seymour, il est veuf. Hein. Il est libre d'épouser qui bon lui semble. Et Henri étant un homme plutôt organisé, il s'était déjà arrangé pour tomber amoureux de Jane Seymour avant la mort de, d'Anne Boleyn, donc quelques mois avant l'exécution d'Anne. Et Jane, alors, serait née en 1509, hein, l'année où Henri est arrivé sur le trône d'Angleterre, donc elle est bien plus jeune que lui, puisque lui est né en 91, je vous laisse faire le calcul. Anne a 27 ans, Henri en a 47, ils se fiancent très rapidement, le 20 mai 1536, donc quelques jours, le lendemain de l'exécution de, d'Anne, oui, puisqu'elle est exécutée le 19 mai, ils se fiancent le 20 mai, et le mariage a lieu aussi très rapidement, il a lieu le 30 mai 1536, donc on ne perdait pas de temps. Jane Seymour avait été dame de compagnie et de Catherine d'Aragon et d'Anne Boleyn, donc on peut dire que, qu'Henri est adepte du recrutement local, hein, puisque vraiment il ne va pas chercher très loin. voilà, et c'est une jeune femme qui a une très bonne réputation, qui sera parfaite pour, il l'espère, devenir la mère de son fils tant attendu. Elle est proclamée reine le 4 juin de la même année, mais en fait, elle sera jamais couronnée, puisque la peste fait rage à Londres à cette époque, et par précaution, les festivités sont annulées, et évidemment, Henri prend grand soin de sa nouvelle reine, parce qu'il attend... toujours éperdument son fils. Jane tombe très vite enceinte, début 1537. Alors elle n'a pas envie de fraises pendant sa grossesse, mais elle a envie de cailles, hein, les petits oiseaux. Et Henri va faire venir de Calais, de Flandre, des centaines et des centaines de cailles pour répondre au désir de sa reine. Et voilà, donc pour montrer à quel point il est amoureux de sa reine et qu'il la chouchoute. Et c'est quelqu'un de très apprécié à la cour, puisque je disais, elle est vraiment considérée comme une femme douce et humble. Et on dit d'elle qu'elle était d'une extrême pâleur, ce qui était signe de beauté à l'époque, et qu'elle aurait même été la plus pâle des femmes d'Henri VIII. Elle est aussi assez proche de Marie Tudor, hein, la fille de Catherine d'Aragon. Et d'ailleurs, elle encourage son mari à se rapprocher de sa fille, mais celui-ci n'entend pas de la même oreille et il refuse de restaurer ses deux filles, hein, Marie et Élisabeth, dans l'ordre de succession à la couronne. Il faudra attendre la sixième femme d'Henri, Catherine Parr, pour qu'Henri accepte de le faire. Donc, Jane est enceinte, elle se retire pour accoucher début octobre 1536. On prie beaucoup Sainte-Anne, femme sainte protectrice des femmes qui sont en train d'accoucher, mais son accouchement se passe très très mal. Il dure 2 jours, 3 nuits, elle souffre le martyr. Malgré tout, un garçon naît, Édouard, futur Édouard VI d'Angleterre. Il naît le 12 octobre 1537 et il est baptisé le 15 octobre. Jane va de mal en pis et meurt, semble-t-il, de fièvre puerpérale, une sorte de septicémie plus ou moins rapide, comme c'était le cas pour, chez 10% des femmes. Henri est dévasté, puisqu'il était vraiment très très amoureux de Jane. Henri est dévasté, ils sont dans une dépression profonde, mais il faut bien se rendre à l'évidence. La mortalité infantile est telle qu'il ne peut pas prendre le risque de n'avoir qu'un seul héritier mâle, et un seul fils légitime, puisqu'il en a un autre. Donc il songe, peu à peu, je vous le donne en mille, à se remarier pour assurer sa succession. Et c'est là qu'intervient Anne de Clèves. Voilà, Anne de Clèves. Je vous ai parlé tout à l'heure de Thomas Cromwell, conseiller d'Henri VIII. Cromwell conseille Henri, l'invite à s'intéresser à Anne de Clèves, qui était une princesse allemande, qui avait, elle, été éduquée dans la pure tradition humaniste. Son père, le père d'Anne de Clèves, avait été influencé par les travaux d'Érasme, l'éloge de la folie, donc le père un des fondateurs des idées humanistes, et aussi il avait été aussi inspiré par les idées de la réforme. Et pour Henri, ce mariage représente une alliance intéressante entre l'Angleterre et l'Allemagne, et Anne est perçue comme une alliée utile dans la lutte contre Rome, pas en faveur de la réforme, mais dans la lutte contre Rome. Le peintre Holbein, qui avait peint les précédents portraits, les portraits que je vous ai montrés, les portraits d'Henri VIII que je vous ai montrés. Donc le peintre Holbein est envoyé à la cour d'Allemagne, lui bénéficie d'une réputation exceptionnelle, on lui fait entièrement confiance, il part à la cour d'Allemagne pour peindre un portrait d'Anne de Clèves qu'il rapportera à la cour d'Henri pour qu'il voit à quoi elle ressemble, cette fameuse Anne. Donc il part, Holbein part entre le 6 janvier et le 9 juillet 1540, il s'affaire sur ce portrait et il rentre avec le portrait, le montre à Henri qui décide d'épouser cette belle jeune femme. Mais une fois, Anne arrive, mais une fois arrivée en Angleterre, les choses se passent ne se passent toujours pas comme prévu, décidément. Henri la trouve d'une rare laideur. Il refuse de l'épouser. Alors, il refuse de l'épouser, mais on le conseille, on essaie d'arrondir les angles. Hein. Il la critique beaucoup, elle ne parle pas anglais, elle parle qu'allemand, ils ont du mal à se comprendre. Il la trouve tellement laide qu'il la surnomme même la jument des Flandres. Ses conseillers se débrouillent quand même pour le raisonner, parce qu'il faut éviter à tout prix un incident diplomatique. Et malgré tout, malgré son sentiment envers Anne, Anne accepte de l'épouser et le mariage a lieu. Le 6 janvier 1540. Mais évidemment, qui dit mariage ne veut pas dire consommation du mariage, et le mariage n'est pas consommé. Henri ne peut pas. Donc, Anne n'est jamais couronnée reine consort, et Henri obtient facilement maintenant, hein, c'est une question d'habitude, il obtient l'annulation du mariage le 9 juillet 1540. Donc, très très rapidement, ils se sont mariés en janvier, le mariage est annulé en juillet. Anne accepte la décision. Hein, et l'incident diplomatique est évité. Donc tout va bien. Et il reste en bon terme, puisque Henri va même lui offrir une rente à vie. Elle reste en Angleterre et elle est invitée aux diverses cérémonies. Par exemple, elle sera invitée au couronnement de Marie Tudor en 1553. Donc voilà, elle reste très proche de la famille royale. Et il reste en bon terme jusqu'à la fin de la vie d'Henri. Alors que faire? Il en est à sa quatrième femme. Et il cherche toujours à assurer sa descendance. Il décide de se remarier. Alors il se remarie. Et évidemment, au bout d'un moment, bon, même s'il y a de nombreuses femmes à la cour, il devient de plus en plus difficile de se concentrer, enfin de trouver quelqu'un de potable, j'allais dire. Donc il est conseillé, et par ses proches, par les conseillers, même d'ordre politique, il est conseillé, on lui conseille de se remarier le plus rapidement possible, en fait. Et dans ces cas-là, vous imaginez bien qu'il y a de nombreuses factions, il y a des familles qui sont plus ou moins importantes, des familles qui cherchent à obtenir de nombreuses choses auprès du roi. Donc les familles puissantes cherchent toujours à placer leurs enfants, leurs filles et leurs fils à la cour. Et c'est ce que fait la famille Howard, hein, et Catherine Howard, qui est ici représentée, presque, j'allais dire, jetée dans les bras d'Henri. Elle est extrêmement jeune. Alors, elle serait née entre 1518 et 1524, elle est morte très jeune, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà. Et elle apporte une certaine joie de vivre à Henri, qui sort quand même de nombreuses années de crise familiale, de crise conjugale. Et une rumeur selon laquelle Catherine serait tombée très très tôt enceinte court à la cour. Et ce qui fait que les choses se précipitent. Et Henri l'épouse le 28 juillet 1540. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette fameuse Catherine Howard est cousine germaine d'Anne Boleyn. Alors, quand je vous disais qu'il recrutait localement, il continue toujours à recruter localement. Alors là, c'est différent. Hein. Autant il estimait que Anne de Clèves était d'une rare laideur, autant Catherine est très jolie. Il la surnomme « ma rose sans épines ». Et il semble avoir retrouvé foi en l'amour. On le trouvera gaillardi, elle le fatigue beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut dire que cette jeune fille avait eu quand même de nombreuses aventures très très jeunes avant de se marier, et elle se révèle d'une incroyable frivolité. Et là, les choses commencent également à se gâter pour elle, puisque peu de temps après son mariage, on découvre que Catherine a eu une liaison avec un de ses courtisans. qu'elle a eu également une liaison avec son secrétaire particulier, qu'elle avait recruté parce qu'elle avait déjà eu une liaison avec lui auparavant. Bon, c'était quelque chose de pas très intelligent de sa part, puisqu'elle aurait dû se douter que les conseillers, ou tout au moins l'entourage d'Henri, allaient vite découvrir le poteau rose. Donc, ces deux hommes sont accusés, jugés, décapités, et Catherine est également accusée de haute trahison et d'adultère, et elle subit le même sort, elle est décapitée le 13 février 1542. Voilà. Donc, on ne peut pas dire grand-chose sur elle, puisqu'elle était très très jeune, et aussi sur, si ce n'est ce que je viens de vous dire, sur le fait que très jeune, elle a eu de nombreux amants. On sait qu'elle avait également des sympathies pour les catholiques, ce qui lui a valu la haine des courtisans et conseillers proches des idées réformées, proches des idées de la réforme. Donc, les protestants de la cour ont vraiment œuvré pour précipiter sa chute. Voilà. On dit que la veille de son exécution, Catherine s'est entraînée de nombreuses heures à poser sa tête sur le billot. Voilà. Donc, sa cinquième femme étant morte, Henri retombe dans une période de crise personnelle et conserve malgré tout, hein, toujours et encore, ce désir d'assurer sa descendance. Et en 1542, puisqu'elle est exécutée en 42, il a désormais 51 ans, il pèse, comme je vous le disais, près de 140 kilos, et surtout, l'abcès qu'il porte à la jambe est devenu purulent, il le fait énormément souffrir, cet abcès dégage une odeur absolument pestilentielle, donc c'est un être qui devient très très répugnant. Sûrement dû à la douleur, il a des humeurs insupportables, hein, on l'entend hurler de très loin, il change d'avis, il devient très très acariâtre, mais vaille que vaille, Henri souhaite toujours et encore se remarier. Et c'est là qu'entre en scène Catherine Parr, qui devient sa sixième femme et sa dernière femme. Il l'épouse au palais de Hampton Court, le palais dont je vous parlais tout à l'heure, le 12 juillet 1543. Alors Catherine Parr, c'est ma reine préférée. C'est une multi-récidiviste du mariage, puisqu'elle a été mariée deux fois très jeune, veuve dans la foulée. Quand je vous dis très jeune, c'est à l'âge de 12-13 ans. Hein. Elle arrive à la cour encouragée par son frère William, qui était déjà en place à la cour. Et tout naturellement, c'est à la cour qu'Henri la rencontre. Et il lui demande très rapidement de l'épouser. Hein, maintenant, il n'a plus de temps à perdre, il devient vieux. Et de toutes les femmes d'Henri, Anne Boleyn, sa seconde femme, et Catherine Parr, sa sixième, sont les seules, à ma connaissance, à s'intéresser sérieusement au protestantisme. Et Catherine a reçu une éducation humaniste. Hein, c'est une femme extrêmement cultivée, une femme très intelligente. Et aussi très respectueuse de son roi. Et elle voit dans la demande en mariage d'Henri une sorte de signe divin, comme un élan qui l'encouragerait à aller partager les idées de la réforme avec lui. Et c'est une femme très pieuse, mais elle reste malgré tout prudente, hein, puisque je vous l'ai dit, Henri est encore catholique, hein, il n'a jamais décidé d'être protestant, et elle, s'intéressant aux idées de la réforme, il était quand même un petit peu dangereux de l'avouer ouvertement. Donc elle est malgré tout très prudente face à ce roi devenu âgé et vraiment acariâtre, et capable en fait de faire décapiter n'importe qui, n'importe quand, pour un oui ou pour un non. Catherine Parr tente à plusieurs reprises, en fait, de s'entretenir de questions doctrinales avec Henri, et à un moment, l'orthodoxie de Catherine est mise en doute par les conservateurs, donc les catholiques de la cour. Et elle échappe d'ailleurs de peu à un complot qui était destiné à la renverser, mais la chance est de son côté et elle réussit à conserver la confiance du roi. Elle lui dit « Maintenant, chère Kate, nous sommes amis ». Donc, je l'ai dit, Catherine est une intellectuelle et elle rédige deux manuels de prière qu'on appelle des manuels de dévotion. Le premier manuel que Catherine rédige, elle le publie d'ailleurs en 1545. Il s'intitule « Prière et méditation », donc il s'agit d'une elle réutilise, on réutilisait beaucoup à l'époque hein, les textes déjà écrits, on les remettait un petit peu à une sauce personnelle, mais elle écrit donc en anglais, et une centaine de psaumes qu'elle rédige. Et ses prières et méditations sont des textes plus proches des idées du roi, donc qui conservent des accents plutôt catholiques. Et le deuxième manuel de dévotion, qui celui-ci est à mon sens le plus intéressant, s'intitule « Les lamentations du pécheur », donc les lamentations de l'âme pécheresse, hein, pas celui qui va pêcher au bord de la rivière. Et celui-ci, elle l'écrit secrètement, puisque c'est dans celui-là qu'elle dévoile en fait sa conversion aux idées protestantes. Et elle l'écrit vraisemblablement dans la dernière année de vie, enfin entre 45 et 46. Henri est mort en janvier 47, mais Catherine ne publiera pas, enfin attend la mort d'Henri pour publier son manuel. Donc, ce qui est intéressant chez Catherine Parr, c'est que c'est, on le sait pas toujours, c'est la première reine anglaise à être publiée. Et c'est surtout la première reine anglaise à avoir été enterrée selon les rites du culte protestant. Voilà. Et elle était très proche des enfants d'Henri. Donc Marie qui était catholique, Elisabeth qui était plutôt protestante, et Édouard qui lui était entre les deux puisque c'était un enfant. Il est né en, j'ai oublié, 1537, voilà. 1537, donc il était tout jeune, hein, il avait une petite dizaine d'années quand Henri est mort. Donc elle aurait participé au choix de ses tuteurs royaux, elle aurait incité Henri à choisir des tuteurs plutôt proches des idées de la réforme pour qu'il puisse éduquer Édouard plutôt dans ce sens-là. Donc elle était très proche et elle a œuvré vraiment pour le rapprochement des enfants royaux et d'Henri VIII. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on sait que Marie était catholique, rien que ça aurait suffi à les séparer, le fait que Marie était catholique et Catherine plutôt protestante, alors que non, il existait entre elles une amitié, une entente réelle et un grand respect l'une de l'autre. Et d'ailleurs, Catherine a encouragé les enfants à l'étude. Et elle chapeaute un projet de traduction des paraphrases d'Érasme sur l'évangile de Saint Jean, ce qui est donc plutôt humaniste, plutôt protestant, ce qui permettra la diffusion du texte en anglais en Angleterre et au début d'Édouard VI, ce qui montre bien à quel point Catherine était impliquée dans la diffusion des idées de la réforme à l'époque. Alors, Marie va se retirer très vite du projet, puisque bon, le prétexte de violente migraine, mais bon, on n'est pas bien sûr, elle aurait eu des migraines ou elle se serait vraiment rendu compte que les idées étaient trop près de la réforme et elle se serait dit non, c'est pas vraiment ce que j'ai dans mon cœur. Donc lorsqu'Henri meurt le 28 janvier 1547, à la suite des blessures à la jambe dont j'ai parlé plus tôt, Catherine étonnamment ne devient pas régente d'Édouard, puisque c'est Édouard VI qui monte sur le trône, mais elle quitte la cour. Elle est plutôt évincée et elle quitte la cour et se remarie et elle épouse en quatrième noce le frère de Jane Seymour, donc l'oncle d'Édouard, oui, Thomas Seymour, et elle accouche en septembre 1548 d'une petite fille. Mais malheureusement, Catherine meurt très rapidement. Elle meurt en couche de fièvre puerpérale très rapidement et on perd très tôt la trace de sa fille qui avait été baptisée Marie. Voilà pour la vie de Catherine Parr. Donc, on dit souvent, quand on parle des femmes d'Henri VIII, il existe en anglais un petit une phrase qui nous permet de savoir dans quel ordre elles sont arrivées. Alors on dit souvent divorcée, décapitée, morte, divorcée, décapitée, a survécu. Donc en fait, c'est pas vraiment vrai. Alors, Catherine a survécu à Henri un peu plus d'une année, mais celle qui a survécu le plus longtemps à Henri, c'est Anne de Clèves, puisqu'elle est morte en 1557. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu participer au couronnement de Marie Tudor en 53. Alors, pour conclure, je dirais que, bon, bien évidemment, Henri VIII est le monarque anglais qui a le plus de femmes. Il a tout d'un héros hollywoodien. C'est d'ailleurs pour ça, enfin, je suis pas vraiment surprise, j'étais pas vraiment surprise de voir qu'Hollywood s'était empressé de créer une série sur le sujet, parce qu'il me semble que la série a bien marché. D'ailleurs, elle est plutôt bien faite. Il a longtemps été comparé à Barbe Bleue, c'est l'image qu'on en a. Et finalement, pour me placer plutôt du point de vue d'Henri, en fait, il a toujours agi en faveur de la monarchie, pour sortir la monarchie de sa crise personnelle, celle qui lui était insupportable, en fait, hein, le fait de ne pas avoir d'héritier mâle, puisque c'était vraiment quelque chose d'important. Et en cela, on peut dire qu'il a agi en toute bonne foi. Alors, la semaine prochaine, j'aurais pu vous parler de ces nombreuses crises de foi, puisque le régime alimentaire des monarques n'était pas toujours très, très, très léger, donc ces crises de foi, mais vu l'épaisseur de sa taille, vous comprendrez. Mais j'ai décidé de vous parler de la crise de foi FOI, puisque... Il est très intéressant de voir en fait comment ils ont manipulé les textes bibliques pour obtenir le divorce et se séparer de Rome. Voilà. Je vous remercie.